Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Le voyage est un retour vers l'essentiel, dit un proverbe tibétain. Cette définition s'applique au mieux à ce voyageur au bagage léger qui n'a pour tout viatique que son sourire, un carnet et un crayon. Totalement étranger aux croisières de luxe, aux chaînes internationales d'hôtels, aux séjours clés en main, il va au hasard des rencontres, des invitations, des échanges, se mêlant sans peine aux hommes et aux femmes, attiré par ce drôle d'individu toujours prêt à croquer un monument, une scène de rue, un visage. Car ses voyages se perpétuent dans de magnifiques carnets où s'exaltent ses talents de dessinateur et de peintre, mais aussi de reporter. Il s'agit de Philippe Bichon et donc de ses carnets de voyage. Philippe Bichon, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de vos voyages et de vos carnets, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de vous.
Oui, alors je suis de Pau. Qui n'est pas très loin. Enfin voilà, je suis de Pau, je suis collaborateur d'architecte de métier. Je travaille dans une agence d'architecture du patrimoine et bientôt je vais pouvoir dire je travaillais parce que mon activité de globe crocker autour de ces carnets me prend tellement de temps que j'ai décidé de me consacrer à ça pleinement.
Ce qui expliquerait la qualité de vos dessins et en particulier de vos dessins de bâtiments, de...
Oui, voilà, oui, bien sûr. En fait, je suis plus à l'aise à dessiner les bâtiments que les personnages. Vous l'avez remarqué,
c'est
sûrement.
C'est ce que vous dites, en tout
oui,
cas.
Oui, ben oui. Alors, c'est vrai. Bon, il m'arrive de faire quelques portraits,
mais c'est vrai
que j'aime bien, j'aime beaucoup dessiner l'architecture et particulièrement l'architecture traditionnelle. Mmh. Donc, effectivement, c'est mon bagage professionnel.
Voilà, alors vous travaillez donc à Pau et vous n'avez pas beaucoup de vacances.
Voilà, pour l'instant,
je n'ai
pas
beaucoup de vacances. Mais... voilà, je veux savoir combien de langues parlez-vous ?
Disons que je ne parle pas énormément de langues. J'aime bien quand je pars comme ça apprendre quelques mots parce que pour moi c'est essentiel de pouvoir communiquer un petit peu. Mmh. Il y a des langues où on se sent plus ou moins à l'aise, d'autres où c'est assez difficile. Donc disons que je parle assez bien le français, l'anglais, un peu l'espagnol. Et puis après, je peux me débrouiller un petit peu en arabe, en persan. La langue où je suis allé le plus loin, c'est le Bahasa Indonésia, parce que c'est une langue en fait très facile.
Alors je vais vous dire, allez, Choma Roubé.
Roubé.
Alors ça, c'est du persan pour nos éditeurs, ça signifie vous allez bien.
Tout à fait.
Voilà. Donc vous êtes un voyageur, vous refusez le terme grand voyageur parce que vous dites que vous partez pas très longtemps. D'où ce goût de voyage, vous l'avez toujours eu ?
Non, il est arrivé un peu tard en fait. J'ai découvert le voyage, j'ai fait mon premier voyage avec un ami et j'ai un peu subi le voyage. Donc je devais avoir 21 ans, je suis parti en Thaïlande comme beaucoup le premier voyage. J'ai un peu subi le voyage puisque lui c'était quelqu'un qui avait déjà beaucoup voyagé et donc... On a rencontré très peu de gens parce qu'on était entre nous, on parlait tout le temps entre nous, on a rencontré un petit peu de monde, mais pas tellement. Et voilà, lui, il avait une expérience de voyageur et je me suis... voilà, et j'ai le regret de ne pas avoir fait de carnet de ce voyage-là.
Vous étiez un lecteur de Nicolas Bouvier ?
En fait, mon gros défaut, c'est que je ne suis pas un grand lecteur. Donc, Nicolas Bouvier,
effectivement... Vous allez dire, on peut peut-être pas tout faire, écrire et lire.
Voilà. Je suis même pas allé jusqu'au bout de l'usage du monde, mais c'est la référence absolue, oui.
Oui. Comment choisissez-vous les lieux de vos voyages ?
En fait, c'est par envie, tout simplement. Il n'y a aucun calcul derrière tout ça. Il y a des rencontres avec des voyageurs qui vont me faire avoir envie de partir. L'Iran, par exemple, puisqu'on va beaucoup parler d'Iran, jamais j'aurais pensé à aller en Iran. Et puis, en fait, c'est en rencontrant des gens qui m'ont parlé de cet Iran qui détonnait complètement avec ce que j'entendais aux infos et avec cette image que j'avais de ce pays. Voilà.
C'est pas vous avez, il me semble vous avoir entendu dire que vous aviez rencontré un Iranien à Pau.
Oui, c'est ça.
C'est ça ?
Oui, oui.
Voilà, et c'est lui qui vous a donné le goût. Bon.
Non. C'est. Ben non, j'avais déjà cette envie d'aller en Iran, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les Iraniens à Pau.
Vous dites, je vous propose un voyage du bout de mon crayon. Là, je vous cite dans votre site justement. Parmi quelques pays parcourus au cours des 18 dernières années, donc c'est 18 ans de voyage ou 18 ans de carnet de voyage ?
Alors, c'est-à-dire que je ne fais un carnet de voyage que quand je suis seul. Donc il y a eu des voyages que j'ai fait en couple et ou avec un ami, et là donc j'ai pas fait de carnet ou alors très peu. Donc c'est réellement quand je suis seul que je prends le temps de faire
ça,
un carnet.
Ça c'est intéressant, oui. Parce que ça peut être, ça a été l'objet d'une discussion. Peut-on voyager mieux quand on est seul ou quand on est en couple ou quand on est alors? Vraiment, quand on est à plusieurs, moi je crois que là, déjà, c'est encore totalement différent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ben, moi, ce que je peux dire, c'est mon expérience. Oui. Je préfère le voyage solitaire. Pourquoi ? Parce que quand on est seul, on va plus facilement vers les gens.
Et les gens viennent
plus facilement vers vous. Voilà. Après, il y a des gens qui voyagent en famille et qui vont vous dire, voyager en famille, c'est merveilleux. Parce qu'avec les enfants, c'est un contact fabuleux. Il y en a d'autres qui vous disent qu'en couple, ils ont aussi cette... Moi, je n'ai pas trouvé... aussi fort que quand je voyageais seul, parce que quand on veut être seul, on l'est.
Oui.
C'est pas toujours facile. mais après, si on veut, par exemple, partager un petit bout de route avec un compagnon de voyage, puisqu'on croise des gens de partout, eh bien, rien ne nous empêche de le faire quelques heures ou quelques jours, et puis après, on peut changer, voilà. Alors que si on part avec quelqu'un, on est quelque part contraint de rester avec cette personne-là.
Bien sûr, bien sûr. Oui, et puis peut-être, en effet, que les personnes hésiteront à s'immiscer dans votre couple, si
ben c'est oui, bien sûr, parce que quand on est avec quelqu'un, forcément, on communique avec cette personne, et du
ben
coup,
oui. Oui.
Même si
oui,
on
oui.
se voit au quotidien pendant oui, toute oui. l'année, on est en oui. voyage, eh bien, on va continuer oui. à dire des choses. Alors, il y en a qui vous disent c'est bien, parce que moi, quand j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour partager mes émotions et tout ça.
Oui, voilà. Alors, oui, j'allais vous dire, moi, je pense qu'en effet, quand on est seul, les échanges avec la population du pays, les échanges se font beaucoup plus. Mais en même temps, il y a le plaisir on a un peu le même regard, le plaisir de partager avec un compagnon ou une compagne de voyage, hein.
Oui, oui, mais moi, pour l'instant, ça ne me manque pas. Et c'est vrai que j'aime bien aussi me retrouver oui. seul. Et en dessinant, peut-être que voilà, il y a une émotion
oui.
qui transparaît différemment.
Oui. Alors, vous préparez vos voyages longuement ?
Longuement, pas forcément. Un petit peu, oui. J'achète un guide. Voilà, un guide de voyage, Lonely
Alors,
Planet, pour pas
c'est
le
Lonely
citer.
Planet, toujours ?
Ouais, plutôt, ouais.
Plutôt que le guide
ouais.
du routard,
ouais,
par exemple.
Oui, plutôt que le guide du routard.
Oui, plus complet.
Oui, plus complet et plus impartial, je dirais. Le guide du routard, je suis plus trop fan de leur humour, comme ça, de leur prise de position. J'aime bien la neutralité un peu du Lonely Planet.
Oui.
Bon, il faut dire, le guide du routard a beaucoup progressé parce qu'il a justement pompé pas mal de choses du Lonely Planet.
Ah, bon ?
Système de cartes, une meilleure lisibilité. C'est assez flagrant
oui.
quand on voit les... l'évolution.
Oui.
Et j'aime bien, voilà, ce guide-là. Et puis après, donc ça me permet de partir un peu avant le voyage, de préparer un petit peu. Mais je sais que, en fait, de plus en plus, je ne me limite pas à un itinéraire prévu, puisque je me laisse aller maintenant au gré des rencontres, au gré des coups de cœur aussi.
Oui,
parce que c'est
oui.
pas parce que tout le monde décide que cet endroit est absolument merveilleux. Ben, on peut le trouver, nous, quelconque,
Autrement.
Et puis
oui.
aller voir quelque chose... quelques kilomètres plus loin et être en admiration devant quelque chose qui n'est même pas dans le guide.
C'est accepter l'improvisation et peut-être, parfois, il ne vous est pas arrivé de dormir pas sous un pont. En Iran, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il n'y a pas eu des situations un peu difficiles ?
Il n'y a jamais eu des situations très difficiles. En fait, parce que je pars quand même beaucoup dans les villes, hein, beaucoup.
Oui.
Donc il y a toujours des endroits où dormir. Oui, oui. Y a pas. En général, je vais dans des petits hôtels.
Oui, oui. Vous ne faites pas comme dans cette émission de télévision. J'irai dormir chez vous.
Voilà.
Il veut absolument dormir chez quelqu'un. Je ne sais pas comment
Mais
il s'appelle.
On peut en parler parce que c'est vrai que c'est pour moi l'hospitalité, ça se demande pas.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu gênant
voilà.
de le voir parfois.
L'hospitalité, ouais. pour moi, c'est pas quelque chose qui se demande. Alors si on me l'offre, bien sûr, ouais. tant mieux. Je suis ravi.
Bien sûr.
Et j'accepte volontiers. Et c'est vrai que c'est très fort, mais après, pour moi, c'est pas une fin en soi non plus d'aller dormir chez quelqu'un. L'hospitalité, elle est au quotidien et elle peut être aussi forte à partager une gamelle dans un train ou dans la rue. Et pour moi, c'est aussi fort ça aussi que
oui.
dormir chez les gens.
Oui.
Et alors, on peut parler juste deux minutes de cette émission parce que on peut la prendre, on peut en sourire. Le problème par rapport à l'Iran, c'est que justement, j'étais un peu furax parce que sur un forum, j'ai vu quelqu'un qui disait, j'ai vu l'émission J'irai dormir chez vous en Iran. Et alors, ça donne vraiment pas envie d'aller en Iran. Et vous savez comme moi que l'Iran, il n'y a pas un pays où c'est plus facile d'aller dormir chez
les gens. Où les gens sont extrêmement accueillants.
Et donc je l'ai vu cette émission et effectivement, il donne une image fausse, contraire de la réalité, mais c'est normal puisque effectivement c'est le seul pays où il n'a pas pu dormir chez les gens. On ne va pas en Iran avec une caméra sur l'épaule et on ne va pas non plus forcément y étaler pendant le ramadan. Et en plus, étalé essentiellement à Rom, qui est quand même
la ville sainte,
la ville où on sait des barbus et tout ça. Donc c'est quand même assez... Là, je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Et du coup, je lui en veux un peu de véhiculer cette image fausse.
Et comme vous dites... Bon, et puis j'ai l'impression, on parle de l'Iran, mais moi, je ne connais pas les autres pays que vous avez traversés, que vous êtes allés, mais en règle générale, vous avez toujours rencontré des gens... Vous n'avez jamais été mal accueilli, disons.
Non. Mais c'est vrai qu'il y a l'hospitalité, c'est pas dans toutes les cultures pareil. En Inde, par exemple, on va pas forcément... à part dans les campagnes, évidemment, si on arrive à pied dans un village, on va forcément se faire inviter dans le village. Mais dans la ville, c'est pas forcément évident de se faire inviter comme ça, toujours chez l'habitant. Mais il y a d'autres pays, comme l'Iran, comme le Mali, où là, c'est tout le temps,
Oui. Vous voyagez sac au dos, je suppose.
Oui.
Pas de valise.
Non, pas de valise, pas encore.
Et votre matériel de dessin.
Voilà. Mais en fait, le matériel, c'est pas grand-chose. C'est des carnets. Alors moi, j'ai trouvé dès ce premier voyage le système de cahiers que je fais relier à la fin. Donc ce sont des petits cahiers de 17 par 22 cm, qui sont donc plus petits qu'un A4, qui sont facilement glissables dans le sac à dos. L'avantage, c'est qu'on peut en laisser une partie à l'hôtel, mais finalement, je les prends tous sur moi, parce que je me suis rendu compte que c'était intéressant de les montrer aussi au fur et à mesure du voyage. Et donc, c'est pas grand-chose, c'est des petits cahiers. C'est pas un papier épais, donc fait pour l'aquarelle, mais je m'en contente, et ça me permet d'avoir comme ça pas trop de cahiers qui prennent pas trop de place. Ensuite, c'est un crayon, un feutre noir pour écrire, pour dessiner aussi. Et puis, c'est vrai qu'avec l'Inde, donc il y a eu l'arrivée de la couleur. Et là, c'est une petite boîte d'aquarelle. Mais
d'accord,
c'est pas...
d'accord. Et le bleu iranien,
et le
persan.
Bleu, oui, c'est sûr. Oui. En Iran, il ne fallait pas oublier les bleus.
Vous dites l'œil au Yémen sur papier brun. On comprend, c'est assez minéral, le Yémen, j'imagine. Et je n'ai pas compris, quelques heures de posca blanc le soir.
Ah oui, le posca, en fait, c'est le... j'aurais pu faire de la gouache blanche, tout ça. Mais pour aller plus vite, le posca, en fait, c'est tout simplement des espèces de stylos où il y a du blanc à l'intérieur. Et donc, ça permet d'aller un petit peu plus vite.
Oui. Alors, j'ai bien aimé aussi les précisions que vous donniez pour les couvertures de vos carnets. Alors, si vous voulez bien, Philippe Bichon, je vais lire juste un petit passage.
Oui.
Pour la première fois, j'ai fait relier mon carnet sur place. Je confie mon carnet chez ce petit relieur le dernier soir à... Alors, est-ce que c'était Yangon ? Rangoon.
Oui, voilà.
Pour la première fois, je me retrouve sans mon carnet pour plusieurs heures et je me sens tout nu. Le carnet me manque et je réalise l'importance réelle qu'il occupe dans mon voyage. Il ne reste plus qu'à l'habiller. Alors quand vous l'avez repris, soulagé, je pense, parce que il ne me reste plus qu'à l'habiller avec un joli papier artisanal sur lequel je dessine au crayon doré. Je voyage, le voyage suivant, je relis à nouveau mon carnet sur place. La veille du départ, je trouve un relieur à Delhi pour m'intégrer dans la... Alors attendez, non. Et vous intégrez dans la... Oui, il intègre dans la couverture la peinture tibétaine que j'ai achetée à Leh.
Voilà.
Bon, alors je vois que c'est tout un travail, la couverture
aussi.
Travail.
Hein. Alors il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu fais relier sur place ? Parce que justement, le dernier voyage au Yémen... ils m'ont beaucoup massacré la couverture, et c'est vrai que du coup...
Qu'est-ce que vous appelez massacré ?
C'est-à-dire que le carnet ne s'ouvrait plus entièrement, et donc sur des doubles pages, c'était assez gênant, on ne pouvait pas profiter même de l'écriture, il y avait des mots... Donc j'ai réussi avec une relieuse compétente de Bayonne qui m'a repris tout ça, mais c'est vrai que c'est le risque, et en même temps pour moi ça fait partie du voyage.
Oui, parce que c'est encore un sujet de rencontre, un objet de rencontre.
Ouais. Voilà. Et ça fait partie du voyage d'avoir ces carnets, ces petits cahiers qui sont donc faits sans brouillon et sans filet, puisque j'arrache jamais de pages.
Oui. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous mettez pas de photos ?
Je fais beaucoup de photos, mais je ne les mets pas dans le carnet, non.
C'est un peu dommage aussi, parce que, vous me direz, le carnet serait très volumineux, parce que j'ai vu sur votre site, il y a de belles photos, très belles photos même.
On me dit oui, je fais des belles photos. Alors maintenant, j'arrive à les montrer.
Mais vos dessins sont très beaux aussi.
C'est-à-dire que moi, tout ça, c'était pas calculé au départ, quoi. J'ai fait mon premier carnet comme ça. Et comme ça m'a plu et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai continué à faire. Alors j'ai juste rajouté la couleur avec l'Inde. Mais intégrer les photos dedans ou même coller des tickets comme font beaucoup.
Oui.
Non, moi j'avais envie du carnet, vraiment, l'écrit, les dessins,
oui,
un peu
voilà.
Comme les carnets, oui. Les carnets du 18e.
Tout à fait. Voilà. Oui, parce qu'il y en a, on le voit.
À l'époque, il n'y avait pas la photo. Hein.
Oui, voilà, oui, effectivement. Et il y en a qui mettent encore plus que la photo, comme vous dites, ça va être le ticket de train.
Tout à fait.
Oui, voilà.
Et c'est vrai que la photo, je l'utilise en faisant un diaporama. Maintenant, je projette ça. Et d'ailleurs, je veux développer ça de plus en plus, faire des conférences diaporama.
Oui.
Où donc je projette photo et dessin.
Je trouve que c'est très beau ce mélange photo voilà. Et dessin aussi.
Et ouais. Je m'arrête pas à ça, c'est-à-dire j'ai photo plus dessin que je commente en direct pour ouais. Retrouver cet esprit live, c'est-à-dire sans brouillon, sans
ouais.
Filet,
ouais.
Pas de repentir possible sur scène, et où je joue en plus de la musique sur le oud.
C'est vous qui jouez,
arabe,
voilà. Parce que vous êtes amateur de musique.
En même temps, je donne quelques notes comme ça pour...
Et d'ailleurs, j'ai vu, vous mettez les traductions de textes qui ont été mis dans vos carnets par des individus rencontrés mm-hmm. En Iran. Genre, on va
bien
parler de ce
oui,
livre-là.
Oui.
Est-ce le dernier d'ailleurs? Non.
C'est pas le dernier publié, c'est le...
L'avant-dernier.
C'est l'avant-dernier, oui.
D'accord. Et justement, en particulier, vous rencontrez un amateur de musique mm-hmm. Qui est ravi de savoir que vous aimez jouer de l'oud.
Oui, oui.
Ouais, c'est ça. Alors, on voit quand même que pour dessiner, il faut se poser, c'est long, on s'assoit, et ça attire énormément.
Tout à fait, mais c'est l'essentiel, c'est-à-dire que le... Voyager en faisant un carnet, en prenant le temps, en dessinant, c'est accepter de prendre du temps. Et le temps, c'est un peu la clé dans tous ces pays.
Ouais, ouais.
C'est vivre au rythme des gens. Ils prennent le temps.
Effectivement.
Ce qu'on ne sait plus trop faire. Et c'est surtout profiter mieux de l'instant présent et de l'endroit où on est. C'est ne plus voir, mais observer.
Ouais.
Et vivre les choses, pas se dire ben tant pis, on va pas voir le temple d'à côté, on va pas voir on se focalise là-dessus, tant pis, j'ai fait de belles rencontres, j'ai fait un beau dessin, j'ai rencontré des gens.
Vous dites et observer, mais accepter d'être observé aussi.
Ouais, c'est clair. Il y en a beaucoup qui sont justement gênés par cet aspect.
Ouais.
Moi, ça m'a jamais gêné, en fait. J'ai pas calculé, c'est-à-dire que le carnet, il est venu. C'est mon premier voyage seul que j'ai ressenti le besoin de faire un carnet.
Mm-hmm.
Et donc, dès mon premier dessin, effectivement, je me suis rendu compte, du pouvoir de se poser et de créer quelque chose. Eh ben, c'est forcément des gens qui viennent. Et très souvent, on m'offre le thé. Il y a un rapport qui s'installe.
Il y a eu des lieux où vous n'avez pas pu dessiner.
Il y a eu, j'ai comme ça, oui, je me suis fait jeter du musée d'Istanbul, musée archéologique. Et il y a un épisode que je raconte là dans le carnet d'Égypte, dans la salle des momies royales, où c'était marqué « nos photos » partout. Et pour moi, faire une esquisse comme ça, c'était pas une photo. Et donc j'étais debout à dessiner tranquillement la mosquée de la momie de Ramsès II. Et il y a un garde, Furax, qui est arrivé et qui a failli me déchirer mon carnet comme ça.
Ah oui, ah oui.
Je l'ai maintenu, il a été d'ailleurs un peu froissé. Et j'avais fait une esquisse rapide au crayon parce que la perspective n'était pas évidente. J'étais par-dessus la tête de Ramsès II et du coup je comptais après le passer à l'encre. Mais comme il y a eu cet épisode, j'ai arrêté mon dessin là.
Mmh.
Parce que c'est ça aussi qui me... J'aime que mes carnets correspondent le plus
à l'ambiance
et à ce qui se passe dans le voyage.
La réalité,
j'aurais très bien pu continuer mon dessin et,
comme si
le traiter comme les autres. Mais du coup,
là,
voilà,
c'est la vérité. Du moment.
Il n'y en a qu'un au crayon. Pourquoi ? Eh bien, c'est expliqué.
Vous demandez aussi aux gens d'écrire et de dessiner dans vos carnets. C'est pas mal, ça aussi.
Ben, dès le tout premier, ouais, j'ai eu cette idée. Et c'est vrai que je suis un des rares à le faire, en tout cas au moins aussi systématiquement. Et c'est pas ça non plus, parce que le carnet, c'est un vrai trésor de faire un carnet de voyage.
Mmh.
Comme je le dis, c'est sans brouillon, c'est sans filet, donc j'arrache pas de page. Alors j'ai la chance, pour l'instant, je suis toujours tombé sur des gens. Je fais confiance et à ce moment-là, ça fonctionne.
Mmh.
J'ai toujours des choses intéressantes.
Philippe Bichon, nous faisons une pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Bien sûr.
S'émerveille de tous nos gadgets numériques. On s'enthousiasme devant nos écrans informatiques. On fait des éloges aux téléphones électroniques. On cherche la magie aux étals des magasins. On oublie ainsi qu'elle n'est pas loin.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Philippe Bichon, carnétiste ou globe croqueur. Alors il va nous dire, Philippe Bichon qui écrit et dessine dans de magnifiques carnets de voyage. Carnet de route par exemple, que j'ai sous les yeux, carnet de route Iran. Et on dira à la fin de cette émission comment on peut se les procurer parce que ce n'est pas forcément en librairie. Alors Philippe Bichon, carnétiste, c'est le terme que j'ai vu.
Oui, c'est
part.
Le terme officiel.
Mais Globe Crocker, c'est pas mal. C'est de votre invention, ça.
Alors Globe Crocker, oui, c'est ma compagne qui a trouvé ça. Mais en fait, ça a été employé aussi par d'autres.
Oui.
Donc, mais voilà, j'ai quand même récupéré le globecrocker.com.
Oui, alors vous croquez, mais j'ai vu quand même que même si vous préférez, et vous le faites fort bien, dessiner des bâtiments, et je vois, il y a des mosquées d'Isfahan qui sont magnifiques, mais vous quand même, vous faites des portraits aussi très beaux, que j'aime, et vous en donnez aussi, vous offrez parfois des portraits?
Alors, comme je vous ai dit, moi, je dessine la plupart du temps dans mon tout le temps dans mon carnet et j'arrache pas de
page. Vous pouvez pas arracher la page.
Par contre, très souvent, je me débrouille pour soit si je peux faire la photocopie sur place, soit leur envoyer après par la suite, voilà, un exemplaire.
Voilà. Alors, il y a quand même de toute façon l'avantage du dessin par rapport à la photo.
Hein? Tout à fait.
Il y a autre chose qui passe. Il y a vous qui passez dans le dessin.
Ben, c'est-à-dire, oui, on va dire que la photo, c'est quelque chose qui est quand même la réalité, on va dire. Et le dessin est peut-être plus une interprétation devant la même chose, avec le même angle. Deux dessinateurs vont pas du tout faire la même chose, même si des fois ça peut se rapprocher, mais il va y avoir des styles différents, il va y avoir aussi une émotion, une impression qui va être transmis par le crayon. Quoi.
Tout à fait, oui. Et puis bon, il y a parfois des couleurs un petit peu délavées, quand c'est de l'aquarelle ça, c'est assez... je pense que ça amène beaucoup plus d'imaginaire.
Oui, puis il y a le fait de... Parce qu'il y a aussi deux choses, il y a dessiner d'après photo et dessiner sur le motif.
Oui,
et
aussi.
Donc là, on n'est pas du tout dans les mêmes...
Vous voyez une différence.
Les mêmes dessins. Oui, pour moi, c'est différent.
D'accord.
Je le vois parce que ça m'arrive sur certains carnets de laisser des pages vides, blanches, parce que j'ai vraiment pas le temps sur place de faire ce que j'ai envie. Et donc à ce moment-là, au retour à la maison, avec la photo, j'essaye de dessiner comme ça sur place. Mais c'est forcément différent. Et donc souvent, je le traite même d'une façon un peu différente pour qu'il y ait carrément autre chose.
D'accord. Vous faites des collages parfois ?
Des collages
D'un dessin que vous allez recoller dans votre carnet, non ?
Non.
Non, jamais ?
Non, non.
Jamais ?
Non.
D'accord. Alors, pouvez-vous me dire à peu près quels sont les carnets que vous avez faits ?
Alors, disons ceux qui
Quand
ont été...
Quand je dis à peu près, non. Vous
pouvez ceux qui ont été publiés, donc le premier c'est l'Égypte et Petra, donc qui est en noir et blanc, puisque l'Inde, enfin la couleur est arrivée avec l'Inde. Donc le premier indien, c'est le Rajasthan. Le deuxième, c'est toujours l'Inde, le Madhya Pradesh, qui est l'état central de l'Inde, et donc Benares en plus. Et celui d'après, c'était donc l'Iran, 5 semaines en Iran. Donc là, le carnet est 2 fois plus épais, parce que j'ai fait 2 carnets au lieu d'un, qui sont reliés dans le même livre. Et ensuite, le dernier qui vient de sortir, là, c'est le petit Tibet, le Ladakh et Spiti, donc les vallées tibétaines, mais côté indien. D'accord. Qui est épais comme l'Iran aussi.
Oui, oui, oui. Une question toute bête. Dans quel pays vous êtes-vous senti le mieux ? Peut-être que c'est trop...
C'est difficile à dire parce que chaque pays a ses ambiances, son charme, ses rencontres, puisque c'est un peu quand même l'essentiel
fonction,
du voyage.
Fonction des rencontres.
Voilà. Oui. Mais je dirais que c'est vrai que je me sens très investi avec l'Iran, puisque là, je me sens investi d'une mission un peu pour qu'on arrête de
rétablir
résumer,
la vérité.
Voilà. Qu'on arrête de résumer toujours ce pays à la politique, mais parler des gens, de la culture, sans occulter les difficultés actuelles par ce régime, mais parler des gens, de la culture, de comment sont les gens, quelles sont leurs occupations, parler de la poésie, de la musique, de la cuisine, qu'est-ce qu'ils mangent au quotidien. Voilà. Je suis parti en Iran 5 semaines, tout seul, avec mon sac à dos, sans connaître personne. Et c'est juste, c'est pas un point de vue journalistique, c'est juste mon journal où j'explique, je raconte au quotidien ce que j'ai vécu, très proche des gens, puisque là, c'est quand même le voyage qui a été le plus fort au niveau de du contact humain.
Et il y a d'ailleurs dans les textes qu'ont écrit des personnes que vous avez rencontrées, il y a de très belles choses.
Tout à fait.
Bon, par exemple, j'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur Philippe sur la place, Narcher, je pense, mm-hmm. Narcher, Shahan, un ambassadeur de la bonne volonté. C'est heureux qu'il existe de telles personnes dans le monde. Je lui souhaite du bonheur et une bonne santé et du plaisir dans la suite de son voyage. Sincèrement, votre Moshe Allah. Et puis, souvent, ils vous demandent aussi, justement, de dire combien ils aiment la paix et la liberté.
Tout à fait. Et quasiment dans la moitié des messages, il y a ce souci de transmettre aux Français, de parler du véritable Iran, de maintenant que j'ai vu comment était le pays, de transmettre surtout. C'est eux un peu qui m'ont donné ce rôle de messager.
Oui.
C'est vrai que c'est avec le carnet d'Iran. C'est là où les témoignages sont les plus forts, sont les plus intenses. Dans les précédents carnets, on est plutôt dans les témoignages un peu légers, où quand je demande aux gens d'écrire un mot, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un petit bout de leur pour immortaliser cette rencontre. C'est vrai que c'est pas forcément un exercice facile pour les gens.
Oui.
Et donc ils se lancent pas souvent dans de la grande écriture et c'est souvent des banalités. Je suis content de vous rencontrer, vous dessinez bien, voilà. Et ils vont jamais dire du mal de moi ou quoi. Mais et là, en Iran, c'est vrai qu'il y a cette dimension supplémentaire.
Liée à la situation politique, évidemment.
Voilà. Il y a aussi beaucoup de poèmes.
Écoutez, vous me faites plaisir de parler de ça, parce que c'est un peuple de poètes. Et quand je le dis, on me regarde avec des yeux ronds. Et y compris un chauffeur taxi, tous les chauffeurs taxi, tout le monde connaît des poèmes.
Complètement.
C'est assez extraordinaire,
ça.
C'est
incroyable.
Ah oui. Est-ce que justement, sur le plan politique, je pense que vous restez d'une neutralité, certainement, parce que c'est difficile pour vous d'intervenir, non ? Mais vous, est-ce que les...
Pas réellement, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais moi je pense qu'effectivement, moi je considère qu'il y a des gens qui parlent très bien de la situation, des journalistes ou quoi, donc ou des gens qui sont sortis de là et qui veulent parler de toutes ces choses négatives. Donc moi, évidemment, je ne me focalise pas là-dessus et je présente l'Iran tel que je l'ai vécu. Mmh. Alors,
Oui, parce qu'à un moment donné, il y a une situation un petit peu...
Voilà.
Un petit peu...
Ben oui, alors c'est exactement comme quand je montre mon diaporama, c'est qu'au début, tout est beau.
Oui, oui. Et puis tout d'un coup, il y a...
Tous ces sourires au quotidien, toutes ces belles mosquées, toutes ces belles couleurs.
Et pouvez-vous nous dire pour nos auditeurs là, ce qui s'est passé brièvement?
Voilà, et brièvement, c'est vrai que j'avais du mal à oublier que j'étais dans cette République islamique, tellement les contacts étaient bons, tellement je me plaisais dans ce pays. Et c'est vrai que là, à Ispahan, je me suis trouvé avec le... Puisque j'ai passé plus d'une semaine dans une famille et je me baladais avec le fils et sa compagne et je suis allé faire quelques photos juste... je me suis absenté 2 minutes parce qu'on devait aller voir un ami musicien. Et au moment de les retrouver, ils n'étaient plus là. Alors les chauffeurs de taxi m'ont expliqué qu'ils étaient partis peut-être en voiture. Je ne comprenais pas du tout parce qu'on était même assez, pressés d'aller voir cet ami. Et puis, il me dit, mais bon, voilà, ils vont peut-être revenir. Et puis, au bout d'1 heure, j'appelle et sur son portable, il était à la police et il m'a expliqué qu'elle s'était fait embarquer par la police.
Parce que elle avait, c'était une histoire
de foulard mal ajusté, voilà, les manches un peu trop remontées.
Ouais,
Et donc là, c'est vrai qu'on se retrouve. Donc tout ça, j'en parle. Je fais parler aussi tous ces gens qui me disent. Donc on trouve des mots dans mon carnet comme pays liberticide. Mmh. Voilà, on trouve tout ça, donc je pense
véhiculer
une image trop forte.
Non,
parce que je voulais pas non plus basculer,
Mais en fait, vous ne provoquez pas, mais vous recevez les confidences ou les paroles.
Voilà.
Ouais. Philippe Bichon, une seconde pause musicale et nous reprenons ensuite.
Voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère. Qu'il se passe de commentaires pendant des journées entières, il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Nous retrouvons Philippe Bichon, venu nous parler des carnets de route, ces carnets de voyage. Celui-ci que j'ai en main, c'est celui sur l'Iran, mais il y en a de très beaux encore. Et il nous parlera des expositions, des participations à différentes rencontres, une connue à Clermont-Ferrand, je crois, on va dire tout ça. Nous parlions des rencontres, alors là, dans le pays, alors sans parler forcément de l'Iran, quelles sont les plus belles la plus belle rencontre que vous ayez eue, un souvenir comme ça?
Alors c'est difficile parce que j'en ai plein. Disons que un des plus beaux souvenirs de voyage, bizarrement, c'est le premier voyage en solitaire. C'est celui qui m'a un peu tout appris.
En Inde, donc?
Non, en Tunisie.
En Tunisie, d'accord.
Donc lui, il n'a pas été publié encore. Oui. Peut-être si j'arrive à publier tous mes carnets, on publiera celui-là. Ça peut être rigolo de voir comment le tout premier était déjà dans cet esprit. Et puis voir aussi l'évolution graphique. Et c'est vrai que c'est mon souvenir le plus fort parce que quand je voyage, j'essaye un peu de m'intégrer avec les gens.
Et que les Tunisiens sont particulièrement accueillants également.
Exactement. Et alors, bon, il y aurait beaucoup à dire hein, sur la Tunisie.
Oui, surtout actuellement.
On parle souvent, surtout actuellement. On parle beaucoup du Maroc, beaucoup, et c'est vrai qu'on oublie un peu la Tunisie.
Ah, oui.
Ou alors, on imagine qu'il n'y a que cette Tunisie de plage, hôtel, couscous, quoi. Donc, il y a aussi notre Tunisie rurale, il y a des très très belles choses, enfin bref. Et donc, je suis parti en stop de Pipo, c'était mon premier voyage en solitaire. Jusqu'à Marseille, j'ai pris le bateau, voilà. Et là, j'ai appris l'hospitalité, ce que c'est que quelqu'un, un jeune homme qui m'offre son lit, qui dort par terre et qui fait la prière le lendemain devant moi, voilà. Et donc, mon voyage, mon souvenir le plus fort, c'est dans une oasis où j'ai passé une semaine et où j'ai sympathisé avec les villageois. Et au bout d'un moment, alors que... Le rapport avec les Blancs était vraiment pas évident parce qu'il y avait eu beaucoup d'abus. Les villageois, les étrangers n'avaient pas le droit absolument pas d'aller dans le village parce qu'ils avaient trop abusé, prendre des photos, prendre des films et tout ça. Et moi, comme je me suis retrouvé le seul dans cette oasis une semaine,
ils
alors que
accepté.
Tous les autres, ils m'ont accepté. Et à un moment, il m'a dit « je t'engage chamelier stagiaire ». Et il me donne une laisse. Avec trois dromadaires et trois touristes dessus. Et ça, c'est vrai que ça a été le comble parce que je me suis retrouvé à promener des touristes, souvent des
qui
Français.
Qui ont cru
d'ailleurs.
Que vous étiez du pays.
Non, ils l'ont vu.
Non. Voilà, alors moi j'aimerais que vous nous parliez justement, vous nous disiez d'abord où on peut trouver vos livres.
Oui, alors les livres, c'est vrai que je suis peu en librairie. Je vais essayer de développer ça, mais pour l'instant, on préfère privilégier la vente en direct, donc sur mon site internet.
Oui, alors on met Philippe Bichon.
Hein, déjà, si on tape Philippe Bichon sur Google, ça fonctionne.
Oui,
même
oui,
Globetrotter, ça fonctionne aussi.
Ouais.
Si on le met tout attaché. Et donc, l'avantage de commander en direct, c'est qu'on offre les frais de port, ce qui n'est pas rien. Et j'offre une dédicace aussi systématiquement pour toute commande. Je fais une petite aquarelle. Je prends le temps de faire une dédicace.
D'accord.
Donc pour moi, c'est quand même bien plus intéressant que d'acheter le livre en librairie.
Bien sûr.
Où là, il n'y a pas ce contact.
Voilà. Oui. Et alors, vous participez évidemment, vous participez en particulier à Toulouse à une exposition. Vous êtes avec deux autres personnes.
Avec trois autres personnes. Il y a une très belle expo à Toulouse là en ce moment, qui s'appelle d'ailleurs justement Globetrotter Carnet de voyage.
Oui.
Et suite à une expérience collective qu'on a fait
d'accord.
au Yémen.
À Clermont-Ferrand, donc
en novembre,
vous participerez.
Oui. Mmh.
Oui. Et puis à Paris, vous avez participé.
À Paris, en ce moment, à l'Institut du monde arabe, où on a une exposition collective sur le Yémen aussi.
Alors, évidemment, on a parlé de vos dessins, mais on n'a pas parlé de ce que vous écriviez. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé votre écriture. C'est une écriture simple, sobre, mais très précise aussi, et très, très spontanée. Et nous apprenons également beaucoup de choses. Par exemple, en Iran, sur les ranats.
Mmh.
Bon, ces systèmes d'irrigation assez extraordinaires. Est tellement ancien, tellement ancien. Et puis, qu'est-ce que je peux dire aussi ? Il y a eu beaucoup de choses, justement, ces échanges. Et à la fin de votre ouvrage, vous donnez la traduction de ce que vos amis ont écrit sur votre livre. Et ça aussi, c'est très émouvant, je trouve. Alors, on peut parler également... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour dire à nos auditeurs qu'il faut qu'ils achètent
je sais pas.
Voilà.
Alors ce que je peux dire, c'est que des carnets de voyage, il y en a beaucoup hein.
Oui.
On le voit d'ailleurs à Clermont-Ferrand, il y a beaucoup de on doit à Titouan Lamazou d'avoir redonné
qui est venu ici.
Qui aimait Bernet comme moi hein,
oui.
Et
qui
donc
dessine très bien comme vous.
Bah ouais, enfin
alors lui plutôt les visages, je pense que vous devriez vous associer parce qu'il est pas très bon, je pense, pour ce qui est de l'architecture.
Ouais, voilà, lui c'est plus les visages, effectivement.
Alors, donc, vous êtes édité chez Bleu Édition.
Oui,
hein,
c'est ça. C'est en fait une toute petite maison d'édition qu'a créé ma compagne, hein, donc c'est quasiment de la petite maison d'édition, c'est même de la nano-édition, parce que je me rends compte que la petite édition, c'est déjà une grande structure. Donc, ce qu'on peut dire juste sur l'écriture, c'est que c'est vrai, c'est une écriture très simple. Moi, je ne suis pas écrivain et je n'ai pas la prétention.
Mais en même temps, c'est une très bonne écriture, hein, je dois vous le dire.
Mais on m'a fait des compliments et c'est assez marrant.
C'est une belle écriture.
Si. Alors, ce qu'il faut dire, mais je l'explique au début, c'est que moi, j'écris le soir avant de dormir, souvent même à la place de dormir. Et c'est vrai que des fois, souvent, je suis fatigué, donc les mots sont pas toujours à leur place et tout ça. Donc des fois, il y a des répétitions, il y a des maladresses d'écriture, il y a beaucoup de fautes d'orthographe quand on lit mes carnets. Donc là, on a trouvé cette police qui ressemble beaucoup à mon écriture, qui en plus s'appelle Philippe, donc c'était rigolo. C'est ça. Et cette police nous a permis de retaper tout le texte.
D'accord.
En gardant, en fait, on a pris le jeu, on a pris le parti de garder le brut. Brut de voyage. Ouais, autant pour les dessins que pour le texte, on n'a pas retravaillé. Et c'est ce qui fait la particularité de mes carnets, parce que c'est d'accord. vrai que les livres en général qu'on trouve en librairie...
Oui, ce n'est pas retravaillé, voilà. Donc oui. Pour terminer, moi j'aimerais lire un extrait de un message que vous a adressé, et donc nous a adressé un de vos... une personne, un Iranien, au nom de Dieu. Dieu a voulu qu'en ce jour, à cette heure, je passe un moment, même court, auprès de mon ami et mon frère Philippe. Il a une bonne nature. Je l'ai amené voir un pigeonnier près de l'aéroport. Il dessine très bien. Il est clair que c'est un homme distingué. Il aime beaucoup l'Iran, comme le prophète. Tous les cœurs sont reliés par un chemin. Cher Philippe, je t'aime et je ne t'oublierai pas. Moustapha, chauffeur de taxi.
Ça, c'est très beau et c'est amusant parce que c'est la seule personne en Iran que j'ai rencontrée et qui était pour Ahmadinejad. Et donc, c'est assez surprenant. Mais c'est assez étonnant parce que quelque part, même si on n'était pas du tout d'accord sur ce point-là,
Ça reste
quelqu'un d'humain. Vous avez vu, il m'a amené voir son père qui a beaucoup souffert de la guerre avec l'Irak et qui m'a fait toucher son crâne défoncé. C'était une expérience incroyable. Donc voilà, chaque rencontre est très forte. Quoi.
Voilà. Alors, je dirais, moi, pour vos lecteurs, ces voyageurs immobiles, mais imaginatifs quand même, cette forme d'ouvrage permet d'aller au plus près d'un pays et de son peuple, d'aller à la rencontre des hommes. Voilà, c'est ça ce qui est important, finalement. Et vous avez le sens de la rencontre, on le sent, dans la simplicité, la vérité de leur vie. Et à travers votre regard et votre crayon, ça nous permet de côtoyer les lieux les plus magiques. Un grand merci, Philippe Bichon.
Reich Mikonam, comme on dit en farsi, en persan.
Voilà, à bientôt j'espère, au revoir.
Avec plaisir, au revoir.